France Info.
Les informés qui réussiront l'exploit de parcourir 400 000 km en une heure. C'est à la fois la distance de la Terre à la Lune, 50e anniversaire. Demain, du jour J de la conquête spatiale, on en parlera en fin d'émission. Et figurez-vous que c'est aussi la distance effectuée depuis un siècle par le porteur du maillot jaune du Tour de France centenaire, célébré ce soir à Pau par Emmanuel Macron. Un président entre maillot jaune et gilet jaune, ce sera aussi un thème de discussion. Au programme également, le grand débat avec les Français. Que veut le gouvernement sur les retraites? Est-ce le bon moyen pour déminer la contestation sociale? Et la finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre l'Algérie et le Sénégal, à la fois enjeu continental et passion française, sécurité renforcée encore dans plusieurs grandes villes. Voilà le programme, je vous présente nos invités. Bonsoir Béatrice Houchard. Béatrice Houchard, bonsoir.
Bonsoir. Oui, bonsoir.
Vous êtes journaliste.
Je vous entends bien.
Mais moi aussi, on a un tout petit décalage parce que vous êtes à Pau sur le Tour de France. Vous venez de publier chez Calnan Lévy, Tour de France et France du Tour. Bonsoir Virginie Pradel, vous êtes dans ce studio, vous.
Oui.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la présidente de l'Institut de Recherche Fiscale et Économique Vauban. Et bonsoir Étienne Gérard.
Bonsoir.
Journaliste politique à Marianne. Décollage immédiat, vous ne bougez pas. C'est parti pour une heure de débat. Et d'abord, cette information que vous révèle ce soir France Info sur les dîners de François de Rugy à l'hôtel de Lassé quand il était président de l'Assemblée nationale. Julie-Marie Lecomte, enquête parlementaire en voie d'être bouclée, dîner professionnel.
Les investigations sont finies et le rapport du secrétaire général est en cours de rédaction. Il sera remis à la présidence de l'Assemblée et mis en ligne mardi sur le site internet du Palais Bourbon. Ce rapport ne devrait pas dévoiler l'intégralité des noms des invités, mais surtout le volet dîner à l'hôtel de Lassé. On s'aperçoit que ce sont bien des dîners professionnel, indique une source proche de l'enquête. Quant au sèche-cheveux à 499 euros, il n'existe pas selon cette même source qui a toutefois constaté l'acquisition d'un modèle de la même marque haut de gamme, laissé dans l'appartement de fonction mais qui n'est pas plaqué or, contrairement à ce qui a pu être évoqué dans plusieurs articles de presse. Sur la base des règles en vigueur, rien à reprocher donc à François de Rugy quand il était au perchoir. Son successeur Richard Ferrand devrait néanmoins proposer dans la foulée de réfléchir en collaboration avec la déontologue de l'Assemblée à de nouvelles règles. Enjeu, rendre plus transparent l'emploi du budget accordé au quatrième personnage de l'État et éviter que pareil doute ne ressurgisse.
Voilà, ce rapport donc, il sera public mardi, mais voilà l'information que vous donne France Info ce soir. Étienne Girard, peut-être qu'il faut d'abord préciser par qui a été menée l'enquête, les services administratifs de l'Assemblée nationale.
La déontologue de l'Assemblée nationale et puis les services de l'Assemblée nationale qui disposent des pièces et notamment de la liste des invités, mais aussi des plats qui ont été servis. Absolument toutes les informations sur ces réceptions à l'hôtel de Lassé.
Quelques jours d'enquête, ça vous paraît suffisant?
Ça va assez vite de mener une enquête sur la liste des invités, le menu et le caractère professionnel ou personnel du dîner à ceci près, qu'il aurait peut-être paru judicieux d'interroger l'ensemble, c'est-à-dire 100% des invités à ces réceptions, ce qui n'a pas était le cas de ce que j'ai compris des révélations de France Info, puisque seule une partie des invités aurait été auditionnée. Cela dit, c'est pas une enquête qui doit prendre des semaines, des mois.
Des invités qui d'ailleurs dans la presse pour certains avaient dit que c'était professionnel. Bon, d'autres avaient dit qu'ils étaient un peu gênés par ce qui s'était passé. Il y avait quelques échos déjà. Béatrice Houchard, vous avez écrit un livre sur le Tour de France, mais vous êtes journaliste politique, vous avez couvert de nombreuses campagnes présidentielles, vous connaissez très bien la politique. C'est une victoire pour François de Rugy ce soir.
Oui, c'est alors sur cet aspect du dossier, oui, il reste quand même. Moi, ce qui m'a intrigué, c'est qu'il démissionne au moment où sortaient d'autres révélations sur l'utilisation de son indemnité de représentation des frais de mandat pour financer son parti politique. C'est peut-être ce qui me gêne le plus dans ce qui est sorti. Alors là encore, il faudra attendre, regarder, vérifier et avoir la certitude. Mais c'est peut-être le volet le plus inquiétant ou plus anormal que l'histoire des homards et qui peut imaginer qu'on achète un sèche-cheveux plaqué or.
Oui, alors évidemment, vous avez fait bien de le dire, Béatrice Houchard, il y a d'autres enquêtes et François de Rugy a démissionné le jour où Mediapart effectivement faisait ses révélations sur l'usage de ces fonds de parlementaires avec le parti politique Europe Écologie Les Verts. Virginie Pradel, ça vous surprend cette décision, de cette enquête de l'Assemblée nationale sur les dîners de François de Rugy? La frontière entre le professionnel et le privé est-elle aussi claire que ça, en fait? C'est aussi la question qui est posée, peut-être.
Non, elle est très ténue et je pense qu'en définitive, on peut dire que c'est professionnel. Enfin, je sais que l'opinion publique s'est très focalisée sur cet aspect de l'affaire Rugy.
Hein, parce que les photos sont spectaculaires aussi.
Exactement, voilà. Exactement. Et c'est choquant. Et quand bien même ce serait professionnel, on se demande si un dîner professionnel doit obligatoirement se faire avec du Château Yquem. Hein, ça, c'est un autre débat.
Alors, tout n'était pas avec du Château Yquem.
Bien sûr.
Voilà,
mais bon, la photo, parce que vous me parliez des photos. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit en tant que fiscaliste, surtout. Je sais que ça n'a pas, enfin, que l'opinion publique ne s'est pas focalisée sur cet aspect. Mais moi, j'ai été profondément choquée des accusations faites le jour de la démission de François de Rugy, à savoir de l'optimisation fiscale faite à l'aide d'opinion, de fonds publics. De l'optimisation fiscale faite à l'aide de fonds publics, à savoir que l'IRFM aurait été utilisé pour financer le parti politique et qu'il aurait déduit, hein, comme chacun peut le faire, 66% des montants versés. Ça, je trouve ça très choquant. Et je dois constater, parce que j'ai suivi sur son compte Twitter qu'il se défendait assez vaillamment contre toutes les accusations qui étaient faites à son encontre, mais qu'il n'a donné aucune explication à ce sujet. Et j'espère qu'il en donnera, parce que s'il redevient député, comme il l'a annoncé, sachant que les députés sont quand même en charge de voter toutes les obligations fiscales qui pèsent sur les millions de contribuables, et nous savons qu'elles sont quand même de plus en plus lourdes, j'espère qu'il y aura des informations et des explications qui seront données à ce sujet, que je trouve vraiment très inquiétant.
Alors, lui n'a pas donné d'explication. En revanche, les Verts, je crois, ont déjà dit que le parti Europe Écologie Les Verts, qu'ils allaient peut-être rembourser ces sommes-là si elles avaient été reçues de façon indue par le parti politique. Ça pose les questions aussi, parce que Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, dit qu'il va peut-être falloir faire de nouvelles règles. Quelles nouvelles règles sur justement ces dîners privés ou professionnels? On en parle après l'info, les grands titres à 20h10 avec vous, Solène Cresson.
Toulouse va utiliser la vidéo-verbalisation ce soir pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Sanction à la clé pour les comportements dangereux sur les routes. À partir de 21h, l'Algérie affronte le Sénégal au Caire, mais plusieurs villes de France prennent des mesures de sécurité par crainte des débordements. Jusqu'ici, Toulouse utilisait la vidéo-verbalisation que pour sanctionner les stationnements interdits. 58 000 bacheliers toujours sans proposition pour la rentrée sur Parcoursup, la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur. Selon le ministère de l'Éducation, la situation s'est amélioré par rapport à l'année dernière. 89% des bacheliers 2019 ont reçu au moins une proposition aujourd'hui, un chiffre contesté par le syndicat étudiant UNEF. Drone ou pas drone, Donald Trump réaffirme ce soir qu'il n'y a aucun doute. Un drone iranien a bien été abattu hier dans le détroit d'Ormuz. Il s'approchait trop près d'un navire américain. Sauf que Téhéran dément depuis hier. Les gardiens de la révolution veulent même envoyer des preuves. Les États-Unis assurent en avoir aussi. Dans l'Hérault, un père de famille entendu par la justice pour avoir tué sa compagne et leur fille de 19 mois. Il explique que le couple avait décidé de tuer toute la famille pour éviter une séparation liée aux services sociaux. L'interdiction de pêcher dans la Seine vaut pour 3 mois, mais peut-être évidemment renouvelée. Précision sur France Info du porte-parole de l'association Robin des Bois. La préfecture de l'Eure interdit la pêche et la consommation de poissons pêchés dans la Seine après l'incendie de la station d'épuration d'Achères dans les Yvelines et les risques de pollution.
France Info. 20h, 21h, les informés. Frédéric Carbone.
Les dîners de François de Rugy à l'hôtel de Lassée étaient de nature professionnelle, c'est ce que dit l'enquête interne menée à l'Assemblée nationale sur ses réceptions du temps où il était président de l'Assemblée, c'est ce que France Info vous révèle donc ce soir. Mais Étienne Girard, ce que nous disait Julie-Marie Lecomte aussi tout à l'heure, c'est que Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, après que ce rapport soit rendu public mardi prochain, va proposer quand même de nouvelles règles pour que tout ça soit éclairci. Est-ce que c'est indispensable d'avoir de nouvelles règles?
Oui. C'est nécessaire. Parce qu'on voit bien qu'on est dans une zone grise, et une zone grise qui n'est ni comprise ni acceptée aujourd'hui par l'opinion, par les Français. Quand François de Rugy dit c'était des réceptions professionnelles et qu'il est validé en ça par la déontologue de l'Assemblée nationale, il n'y a rien de faux, parce que c'est vrai qu'il n'est pas possible de prouver en regardant la liste des invités, qui sont des personnes éminentes de la société civile.
Puis là, il n'y a pas les enregistrements du repas, heureusement
voilà.
Qu'on n'en est pas là.
Oui, mais tout à fait, heureusement qu'on n'en est pas là, non, mais bien sûr. Mais C'est des personnalités éminentes de la société civile. Ils ont sans doute parlé à un moment de débat sur les sujets qui intéressent les uns les autres. Mais il en reste pas moins que ces personnes étaient aussi, au moins en partie, des connaissances, des amis du couple Rugy. Et c'est là qu'on voit pas bien la frontière, la distinction entre le professionnel, le purement professionnel et le purement privé. On est dans un privé matiné de professionnel ou un professionnel matiné de privé. C'est pour ça qu'il est indispensable, pour que les choses soient bien claires, qu'il y ait des règles précises pour que à la fois l'opinion, mais surtout les responsables politiques, savent à quoi s'en tenir et qu'ils aient un mode d'emploi très clair de ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire.
Béatrice Houchard, ça serait, comme dit Étienne Girard, bien pour les politiques eux-mêmes de fixer une frontière, de faire quelque chose intermédiaire, on va dire, entre le puritanisme à la scandinave et la monarchie républicaine à la française.
Oui, deux choses. Oui. D'une part, faut pas être naïf. Le président de l'Assemblée nationale, il est pas seulement là pour présider la séance des questions d'actualité le mardi dans l'hémicycle. Il fait de la politique. Donc, dans le cadre de son activité politique, il reçoit du monde, des journalistes, des patrons, des responsables d'associations. Donc effectivement, la frontière, elle est ténue. Moi, ce qui me gêne davantage, c'est que certains invités ont eux-mêmes reconnu qu'ils avaient été invités parce qu'ils étaient des amis de son épouse. Donc, ça, la frontière, on n'est pas du bon côté de la frontière. Là, pour le coup.
Et son épouse elle-même, enfin en tout cas dans l'enquête de Mediapart, évoque certains amis venus à l'hôtel de Lacé. Donc compte tenu de cela, Béatrice Houchard, est-ce que c'est possible de fixer une frontière claire où on est dans une zone forcément poreuse et qui sera toujours grise?
Alors écoutez, c'est difficile cette frontière. J'avais juste envie de vous citer un exemple. Quand Philippe Séguin était président de l'Assemblée nationale, il avait réglé le problème de la manière suivante. Même lorsqu'il y avait des réceptions officielles, par exemple de responsables étrangers, son épouse ne mettait jamais les pieds à l'hôtel de Lacay. Et c'était une vice-présidente de l'Assemblée nationale qui faisait première dame de l'Assemblée. Oui, en quelque sorte, oui. Comme ça, il n'y avait pas de mélange des genres avec l'aspect familial. C'était peut-être pas si mal.
Oui, peut-être. Et là, du coup, je me tourne vers vous, Virginie Pradel. On a ce qui est la distinction entre les règles, les normes, et puis la discipline individuelle, presque une notion d'éthique personnelle, d'éthique individuelle.
Oui, alors moi j'y compte pas trop. Hein.
Le réalisme,
je suis un peu désabusée, mais je pense que là on est arrivé à un stade d'érosion du consentement à l'impôt, hein, parce que tous ces homards, c'est quand même financé par des prélèvements qui pèsent sur les Français. J'espère qu'il y aura un sursaut de transparence, parce que je pense que c'est une vraie demande des Français, hein, qu'on a pu voir aussi à travers les Gilets jaunes. Moi, je serais pas choquée du puritanisme à la Scandinave. Je pense que s'il faut en arriver là pour que les gens arrêtent de devenir fous sur Twitter en regardant des homards et des châteaux Ikem, pourquoi pas. Mais en tout état de cause, moi, j'ai été particulièrement choquée quand... alors, je sais plus qui avait annoncé cela, mais qui n'avait pas de comptabilité précise s'agissant du président de l'Assemblée nationale. Mais ben, je trouve ça affreusement choquant. On a durci les règles pour les députés, à savoir que maintenant... on leur demande des justificatifs pour
François
être remboursés.
François de Rugy a fait beaucoup pour ça, d'ailleurs.
Exactement, il s'est lui-même érigé en héros.
L'effet boomerang.
Exactement, il s'est lui-même érigé en héros de la transparence. Donc j'espère qu'on va continuer sur ce chemin, parce que je trouve que c'est affreusement choquant et il faudrait prendre des mesures. Moi, je serais pas choquée qu'on affiche, par exemple, le nom des personnes qui viennent dîner à l'Assemblée nationale. Pourquoi pas pas forcément le menu, mais qu'il y ait beaucoup plus de transparence qu'aujourd'hui.
Étienne Girard, beaucoup plus de transparence, de la même manière, c'est un autre sujet, mais ça rejoint un peu que les lobbies devraient être aussi transparents, de dire telle et telle personne représentant tel ou tel lobby est allé dans tel ministère.
Ben c'est vrai qu'il y a un décalage entre ce qui est demandé par l'opinion et ce qui est aujourd'hui accepté par la classe politique. Parce qu'en réalité, c'est la classe politique qui freine, qui ne souhaite pas communiquer les listes d'invités, qui ne souhaite pas communiquer ses rendez-vous avec les représentants d'intérêts. Pour des raisons qu'on peut comprendre, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas pris la mesure de la défiance pour cette raison-là, qui est celle de l'opinion publique. Donc oui, il y a des réformes à faire sur ces questions-là au Parlement européen. À la fin de la dernière législature, il a été décidé que tous les rendez-vous des lobbyistes avec des rapporteurs de textes ou des présidents de commissions seront désormais publiés. Pourquoi en France ce n'est pas le cas? On peut s'en étonner.
Les lobbyistes, en tout cas au Parlement européen, sont extrêmement nombreux et c'est beaucoup plus
en France aussi,
réglementé. C'est beaucoup plus réglementé que, effectivement, sans doute qu'à l'Assemblée nationale. Béatrice Houchard, compte tenu de tout cela, de ces questions de nouvelles règles ou pas, de frontières qu'on a vues poreuses, d'état d'esprit qui n'est sans doute pas le même en France que dans d'autres pays, on est toujours aussi avec la frontière entre le légal et le moral, l'acceptable par l'opinion publique. Est-ce que l'opinion publique rejette ? On n'ira jamais assez loin, sans doute, pour l'opinion publique.
Oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui se faisaient il y a, j'allais dire 20 ans, mais même 5 ans ou 10 ans, et qui, d'abord, qui peut-être ne se savaient pas, parce qu'il y a les réseaux sociaux avec leurs bienfaits et leur, c'est quoi le contraire de bienfaits? Je sais plus,
méfait,
France m'a tourné la tête,
méfait.
Moi. Et leurs méfaits, voilà, merci beaucoup. Et leurs
dérive,
méfaits.
Je
moi, je suis plus mesurée sur cette histoire de donner les listes. Moi, j'ai passé ma vie, alors non pas, moi, j'ai plutôt évité les dîners avec les responsables politiques, parce que j'ai toujours estimé que le soir, soit j'avais un journal à faire, soit j'avais mieux à faire en étant chez moi ou ailleurs ou au cinéma. J'ai beaucoup déjeuné avec des responsables politiques, et heureusement qu'on n'a pas publié la liste tout le temps. Et j'ai pas spécialement envie qu'on sache avec qui un journaliste qui travaille sur la politique déjeune ou prend un petit déjeuner ou un rendez-vous. Là on arrive, moi je me méfiais de cette espèce de transparence quasi dictatoriale quand même. On peut peut-être arriver à trouver un juste milieu.
Oui, ça a l'air assez compliqué. Un mot, Virginie Pradel, vous voulez répondre? Dites que vous n'étiez pas une dictature pour la dictature de la transparence.
La seule chose que je veux dire, c'est que je pense qu'il faudrait quand même qu'il y ait une symétrie entre le privé et le public. Moi, par exemple, j'ai du contrôle fiscal, et quand vous avez un contrôle fiscal, l'administration vous demande avec qui vous déjeunez, avec qui vous dînez, pour s'assurer que le rendez-vous a un caractère professionnel. Aujourd'hui, on ne sait absolument pas si les députés utilisent leur enveloppe pour déjeuner avec, je sais pas, des amis ou alors que c'est quand même payé par nos impôts. Et voilà.
Quelque chose qui serait de l'ordre de la justification ou du justificatif. Vous restez évidemment tous les trois, on poursuit la conversation. On va parler des retraites dans une minute, le temps de dérouler les grands titres de l'actualité. Solène Cressan, 20h20.
Ils ont causé en partie sa démission, mais les dîners polémiques de François de Rugy quand il présidait l'Assemblée nationale sont bien des dîners professionnels. Résultat de l'enquête confiée à l'Assemblée que France Info a pu se procurer avant leur publication prévue mardi. Quant aux sèche-cheveux à 499 €, ils n'existent pas selon une source proche de l'enquête. Pour elle, la disparition de Steve n'est pas une priorité des pouvoirs publics. Critique sur France Info de l'avocate des 85 personnes qui ont porté plainte après la disparition de Steve, il y a presque un mois, pendant une charge policière le soir de la fête de la musique. Hier, la maire de Nantes a envoyé un courrier au ministère de l'Intérieur pour demander des explications rapides. Des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage font valoir leur droit de retrait après l'incendie d'une de leurs voitures mercredi dernier en Ariège. Ils étaient en train de faire un contrôle sur les cadavres de 3 brebis pour savoir si elles avaient été tuées par l'ours. 6 personnes, dont un humanitaire d'Action contre la faim, sont portées disparues au Nigeria depuis l'attaque de leur convoi au nord-est du pays. Un des chauffeurs a été tué, selon l'ONG. Dans cette région, le groupe islamique en Afrique de l'Ouest, affilié à Daesh, est très actif. Pour Guérin Thomas, si Julien Alaphilippe continue comme ça, il va gagner. Le deuxième de l'étape salue notre Français qui a réussi à garder le maillot jaune sur ce contre-la-montre individuel à Pau tout à l'heure.
France Info. 20h-21h, les informés.
Frédéric Carbone.
La méthode Grand Débat est-elle adaptée à la réforme des retraites? C'est en tout cas l'information donnée sur France Info ce matin par la ministre chargée du dossier, Agnès Buzyn. Il n'y aura pas seulement concertation, dit-elle, avec les syndicats, mais aussi consultation d'une manière ou d'une autre des Français. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé.
Le Premier ministre annoncera la semaine prochaine la méthode de concertation ainsi que le calendrier des concertations.
Grand débat national pour les Français.
En tous les cas, quelque chose qui s'apparente à un vrai dialogue direct avec les Français. Pourquoi ? Parce que c'est une refondation qui doit leur parler. Nous avons besoin de parler avec les Français eux-mêmes pour qu'ils s'approprient la philosophie de cette réforme. Et je pense que la philosophie est une philosophie de justice. Et j'engage tous les Français à regarder le rapport. Parce qu'il est très très intéressant à lire, il est très simple à lire et on comprend la philosophie. Voilà, je crois que ce sera une discussion intéressante. C'est vraiment un débat de société très, très important.
Virginie Pradel, je me tourne vers vous d'abord. Est-ce que les Français veulent être consultés sur la philosophie de cette réforme, plus d'égalité, dit le gouvernement, ou est-ce qu'ils veulent juste avant tout savoir ce qu'il y aura sur leur feuille de pension, ce qu'ils toucheront à la retraite ?
Vous dites, oui, ce qui intéresse les Français, c'est ce qu'ils vont toucher, mais il faut quand même préciser que Il y a déjà eu 18 mois de consultations, des plateformes mises en place, de consultations citoyennes. Hein. D'ailleurs, il y a des milliers de Français qui ont participé. Donc, c'est assez surprenant que, au bout de 18 mois de concertation, en fait, on reparte sur une concertation. Bon, mais pourquoi pas? Moi, je pense que bon, c'est peut-être une façon de doubler les syndicats hein, qui sont apparemment très réfractaires. Mais je tiens quand même à préciser quelque chose. Moi, ce qui me frappe énormément avec le rapport que j'ai consulté, c'est qu'il met en avant les aspects positifs, mais absolument pas les aspects négatifs.
Normal.
Et notamment le fait que les prélèvements, parce que alors c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron de ne pas toucher, comment dire, aux pensions de retraite, hein, au montant des allocations, mais on peut quand même constater que malheureusement depuis des années, on ne touche pas au montant brut des pensions, mais compte tenu de tous les prélèvements, notamment la hausse de la CSG, la création de nouvelles cotisations pour les retraités, le montant net diminue d'année en année, et je tiens à le préciser, hein, il ne faudrait pas qu'on arrive à encore plus de prélèvements pour pallier en fait l'absence de baisse des pensions brutes.
Alors pour revenir à cette question de la consultation, Béatrice Houchard, je rebondis sur ce que disait Virginie Pradel à l'instant, façon de contourner d'une manière ou d'une autre les syndicats, comme ça de lancer la grande concertation auprès des Français.
Oui, c'est très étrange. Alors d'abord, c'est un aveu d'échec. Ça veut dire que sur la réforme de la SNCF, sur le droit du travail, sur l'assurance chômage, où il y a eu là maintenant on nous dit il n'y aura pas de passage en force. Donc il y a eu des passages en force et puis on a vu quand même que ça s'est pas très bien passé dans l'opinion publique. Bon, ils en prennent acte.
Une façon de tirer les leçons.
Oui, et en même temps c'est vrai qu'il y a déjà eu, comme on le disait à l'instant, vous le disiez à l'instant, il y a déjà eu des consultations. Et ce qui m'étonne un peu sur les syndicats, c'est que la CGT, notamment, qui est favorable à un système universel de retraite par points depuis longtemps, pourquoi ne pas essayer de... Ils vont peut-être essayer de faire les deux. Pourquoi ne pas essayer de s'appuyer ou en tout cas d'avoir l'appui de la CFDT dans cette affaire? C'est un peu incompréhensible pour moi.
Alors, peut-être qu'Étienne Girard comprend ce qu'il y a derrière. Est-ce que le gouvernement gagne du temps avec ça? Est-ce que les syndicats vont se dire une fois de plus, ben voilà, on nous contourne d'une manière ou d'une autre?
C'est avant tout une technique de communication qui s'explique par la réussite relative du grand débat. Le gouvernement maintenant pense y voir la martingale gagnante. Donc quand une discussion ne fonctionne pas très bien avec les partenaires sociaux, il faut maintenant s'attendre à ce que la population directement soit prise à témoin. On va engager un grand dialogue. Ça marche pas avec les corps intermédiaires, donc on va parler aux citoyens directement.
Mais de quelle manière d'ailleurs? Parce que c'est vrai qu'il y a eu sur Internet, Virginie Pradel le disait, que les Français étaient invités à faire savoir, à donner leur avis.
C'est tout sauf clair, à l'heure actuelle, hein, puisque ça n'a pas été précisé exactement par la ministre de la Santé. Mais ce qu'on peut déjà deviner, c'est qu'il y aura assez peu de mesures qui seront réellement discutées dans le sens où qui pourront être remises en cause. Pourquoi? Parce que le gouvernement, il a déjà présenté son projet, il a déjà présenté ses conclusions par la voix de Jean-Paul Deloye, qui est le haut commissaire chargé des retraites et qui est un très proche d'Emmanuel Macron. On sait que ce qui sera retenu, c'est l'âge pivot, dit-on, ou
l'équilibre de 64 ans.
Voilà. Donc, en réalité, ce dialogue avec les Français, c'est juste un dialogue pour expliquer et pour convaincre de décisions qui sont déjà prises.
Question naïve, Béatrice Houchard, si on fait cette consultation, pourquoi pas faire un référendum après tout? Je connais à peu près la réponse, mais si on va vers là, les Français vont dire pourquoi vous ne consultez pas tous.
Oui, parce qu'effectivement, si on consulte, on consulte qui va répondre. C'est très risqué les référendums, comme le savent certains présidents de la République. Mais les Français répondraient surtout jusqu'à quand vous allez faire des réformes des retraites, parce que ce qu'on entend quand même beaucoup dire, c'est il y a une réforme des retraites et puis une nouvelle réforme des retraites. On dit ah ça y est, cette fois-ci c'est bien, 62 ans, voilà formidable, on y est, ce sera équilibré. Et puis, quelques années après, on s'aperçoit qu'il faut en faire une autre. Vous savez, ça rappelle ce que disait Michel Rocard, hein, dans les années 80. Il y a de quoi faire tomber tous les gouvernements pendant 30 ans avec cette question des retraites. Et on n'est peut-être pas sorti, et ce n'est sans doute pas la dernière réforme. Mais droite. Difficile à expliquer dans l'opinion publique, ça.
Ouais. Et Virginie Pradel, c'est pas les Français qui vont dire quelle est la valeur du point ou si 64 ans doit être remis en cause ou pas. Enfin, on imagine que ça va pas faire bouger ces lignes-là.
Non, moi, je pense qu'on va rester un peu sur les consultations qui ont lieu jusqu'à présent. Alors moi, j'avais eu la curiosité de regarder et bon, bah, c'était absolument pas précis. Hein. Vous étiez absolument pas en mesure de calculer votre pension. On interrogeait les Français sur des grandes idées. Est-ce que vous voulez un système plus juste, un système plus solidaire? Donc forcément.
Non, plus injuste et moins solidaire.
Mais voilà, ouais, ce que je veux dire, c'est des questions comme ça. Donc forcément, tout le monde va répondre oui. Et en définitive, on aura interrogé tout le monde et ça n'aura pas servi à grand chose. Non, moi, ce système me paraît très flou, comme la plupart des spécialistes. Hein, moi, j'ai du mal à voir. Alors,
vous paraît flou, l'âge d'équilibre ou le système par points universel?
Alors, le système par points universel, il existe déjà pour les retraites complémentaires, mais on peut voir que d'année en année, et d'ailleurs depuis le début de l'année 2019, bah, le taux d'appel augmente. Hein, donc, ce qui veut dire que les gens cotisent plus que ce qu'ils peuvent obtenir en définitive, parce qu'on a un taux d'appel à 127%. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, ce personne ne comprend. Ouais. Mais bon, de toute manière, c'est très flou. Je pense que ça va créer beaucoup d'injustice parce qu'aujourd'hui, ce qui est à l'ordre du jour, c'est de fusionner des régimes dont certains sont très bien gérés pour compenser avec ceux qui ont été très mal gérés. Rappelons aussi que c'est une réforme qui entrera en vigueur en 2025. Donc d'ici là, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et on sait qu'on revient souvent sur des choses qui ont été promises.
2025 et même 2030-35, je crois, pour la plupart des régimes spéciaux, voilà. Très spécifiques.
Donc on a le temps.
On a le temps. Eh bien, nous, on a le temps de prendre des nouvelles du temps. La météo.
France Info Météo, avec le CIC, banque numéro 1 au podium de la relation client 2019. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Et voici les prévisions de Sébastien Léas.
Le temps va tourner à l'orage avec la perturbation qui glisse entre la Bretagne, la Normandie et le Pas-de-Calais qui va devenir instable en cours de nuit et demain. Et une autre dégradation qui va aborder l'Aquitaine cette nuit. Demain matin, cette dégradation pluvieuse et orageuse va progressivement se décaler du sud-ouest vers le massif central pour s'étendre vers la Bourgogne-Franche-Comté, les Alpes du Nord et le Grand Est demain après-midi et en soirée. Temps plus calme sur les régions méditerranéennes avec du soleil, mais tout de même des grisailles matinales sur le Languedoc-Roussillon. Quelques nuages bas peuvent d'ailleurs persister demain après-midi. Avant la vague orageuse de l'après-midi, la façade est profitera d'une matinée ensoleillée. Et sur l'ouest, c'est l'après-midi qui sera plus clément avec de belles éclaircies. Demain, les températures maximales seront comprises entre 21 et 30 degrés sur la moitié ouest et 25 à 33 degrés plus à l'est.
Sébastien Léas, Météo France. Les informés reviennent dans 3 minutes après l'info, 20h30.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Excellente soirée à tous, l'essentiel de l'info, Armel Balogog.
Pétards et feux d'artifice interdits dans une dizaine de départements, restrictions de circulation, la vente d'alcool encore plus encadrée, l'inquiétude des préfectures. Elles tentent de prévenir d'éventuels débordements ce soir après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Des scènes de liesse qui tourneraient mal, comme dimanche dernier après la demi-finale. Le match Algérie-Sénégal commence dans une demi-heure en Égypte. Julien Alaphilippe, transporté par le maillot jaune, je suis le premier surpris et je n'oublierai jamais cette journée. Déclaration du cycliste français juste après sa victoire au contre-la-montre à Pau. Aujourd'hui, 13e étape du Tour de France. Il a tout simplement réalisé un exploit. Et Fabrice Rigobert, ils ne sont pas nombreux les Français à avoir réalisé cette performance.
32 ans après Jean-François Bernard, dernier vainqueur français d'un chrono sur le Tour, 35 ans après un certain Laurent Fignon, dernier tricolore, vainqueur d'un contre-la-montre avec le maillot jaune sur ses épaules, et 100 ans après la création de l'habit de lumière, Julien Alaphilippe a remporté le dernier chrono du Tour en creusant l'écart sur ses rivaux au classement général. Survolté, supporté par un public entièrement acquis à sa cause, le vainqueur de l'étape d'Épernay est passé en tête à tous les points intermédiaires pour finir avec 14 secondes d'avance sur le lauréat sortant de la grande boucle, le Gallois Geraint Thomas, qui avait pourtant l'ambition de s'emparer de cette première place. Il possède maintenant une avance d'une minute 26 sur son dauphin, 2 minutes 12 sur le néerlandais Kruijswijk, qui s'est emparé de la troisième place du classement aux dépens d'Egan Bernal. Septième de cette étape à 49 secondes du maillot jaune, Thibaut Pinot pointe maintenant à 3 minutes 22. Demain, c'est le Tourmalet qui attend les coureurs avec la première arrivée au sommet dans les Pyrénées. La haute montagne résistera-t-elle à Julien Alaphilippe? Son avance devrait en tout cas lui permettre d'atteindre le massif alpin avec le maillot jaune. Pau, Fabrice Rigobert, France Info. info.
En effet, 14e étape du Tour demain, 117,5 km à parcourir entre Tarbes et le Tourmalet. Œil pour œil, dent pour dent, dans le Golfe, l'Iran confisque un pétrolier britannique dans le détroit d'Ormuz, annonce des gardiens de la Révolution ce soir, quelques heures seulement après une décision de la Cour suprême de Gibraltar. Elle prolonge de 30 jours l'immobilisation d'un pétrolier iranien. François de Rugy n'a pas enfreint les règles de l'Assemblée nationale. Ces dîners luxueux au homard arrosé de champagne qui ont tant fait polémique étaient bien professionnels. Conclusion de l'enquête de l'Assemblée. France Info vous le révèle ce soir. Investigation lancée après des révélations de Mediapart. Et contrairement à ce que disait le site d'information, l'ancien président de l'Assemblée n'a pas acheté un sèche-cheveux plaqué or pour 500 euros. L'intersyndicale de General Electric à Belfort met le gouvernement en demeure. Il doit forcer le groupe américain à respecter ses engagements. General Electric a racheté le pôle énergie d'Alstom en 2014. Il a promis de créer 1000 emplois. Parole non tenue et pire encore, en mai dernier, il a annoncé vouloir supprimer 1050 postes, la plupart dans l'entité turbine à gaz du site de Belfort. En France, Greenpeace n'a plus le droit de s'approcher des convois de transport de matières nucléaires. Le tribunal de Paris lui interdit. La mesure va jusqu'au 25 septembre, date de fin du débat public sur la gestion des matières radioactives. L'ONG se dit bâillonnée, elle fait appel. 20h33 sur France Info et 30 secondes un peu en retard.
Mais non,
la suite
nous
des informés.
Tout notre temps, Armel Balogog.
Avec vous, Frédéric Carbone.
20h-21h, les informés.
Frédéric Carbone.
Et du coup, la deuxième partie des informés de France Info qui démarre au sprint, comme l'arrivée de Julien Alaphilippe tout à l'heure à Pau, vainqueur du contre-la-montre et qui conserve le maillot jaune. Il ne pouvait pas y avoir symbole plus parfait. En ce jour de centenaire de la tunique sportive la plus célèbre, Béatrice Houchard, vous qui êtes à Pau, je rappelle le titre de votre livre, hein, Tour de France et France du Tour. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ça méritera peut-être un chapitre dans la deuxième édition. Hein. Là, il y a tous les symboles. Hein.
Ah bah c'est prévu.
Il y a tous les symboles là-dedans.
Ah, il y a tous les symboles. Le jour des 100 ans de l'invention du maillot jaune, un Français part en jaune pour cette étape contre la montre et conforte son maillot jaune, ce qui n'était pas forcément évident à l'issue de cette étape. Donc oui, c'est un beau symbole.
Et en plus, un Français issu, je crois, de milieu populaire, c'est souvent le cas pour les cyclistes, c'est pas le seul, mais c'est très totalement la France du Tour, Julien Alaphilippe. Ça y est, il y a le nouveau héros, hein.
Ah oui, et je peux vous dire que la popularité, c'était déjà le cas l'année dernière, hein. Ça m'avait frappé dans la dernière étape l'année dernière, alors il avait le maillot à pois, et généralement le porteur du maillot à pois est toujours assez populaire, d'abord on le repère très facilement, et il avait eu un beau succès sur la dernière étape, et cette année j'ai l'impression que là, effectivement, sa popularité est en train de monter. J'ai même vu des gamins hier qui jouaient à faire comme Alaphilippe, donc je me suis dit
c'est quoi, comme Alaphilippe,
ils faisaient une course, ils étaient deux gamins qui faisaient une course à vélo, comme on a tous fait ou pas d'ailleurs quand on était petit, et donc celui qui gagnait était Alaphilippe. Donc voilà, comme il y a pu avoir jadis successivement Robic, Bobet, Anquetil, Poulidor et plus près de nous Hinault, Fignon, Vauclair, etc.
Ben voilà, dans la grande lignée de ces cyclistes français. Alors pour ce centenaire du maillot jaune à Pau, hein, vous êtes Béatrice, Emmanuel Macron s'est aussi déplacé. Il y a un musée, je crois, du maillot jaune à Pau, qui est une des villes qui accueille le plus le Tour de France, et quasiment chaque année la ville de l'ami, hein, d'Emmanuel Macron, François Bayrou. Voici ce qu'a dit le chef de l'État, quelques mots.
Le Tour de France, ça fait partie des mythologies françaises. Pour nos concitoyens, pour le monde entier, c'est l'image de la France, c'est cette magie du mois de juillet, comme disait Antoine Blondin, qui aimait tant suivre et chroniquer dans l'équipe. Le Tour de France, en effet, c'est cette épopée de géants, et ce sont ces champions que nous célébrons aujourd'hui à travers ce maillot jaune et ses 100 ans du maillot jaune.
Voilà, Emmanuel Macron à Tours, c'était à Pau, il y a quelques minutes. Étienne Girard et Virginie Pradel, vous êtes moins spécialistes du Tour de France que Béatrice Houchard, mais ce maillot jaune, ça fait vibrer quelque chose en vous, l'un et l'autre, Virginie Pradel peut-être?
Moi j'aime beaucoup le cyclisme, c'est un événement très populaire qui fédère quand même des millions de Français, hein, et l'étape finale mobilise quand même, je crois, 3 ou 4 millions de personnes, donc c'est un énorme coup de communication aussi pour le président.
Vous êtes allé des fois le passer?
Oui. J'ai même remis, parce que j'étais hôtesse quand j'étais étudiante, j'ai même remis le bouquet de fleurs au vainqueur. Si. Je sais plus, c'est à quelques années, mais je me rappelle très bien. J'étais avec les petites, vous savez, il y a toujours des jeunes filles pour donner les bouquets de fleurs, et moi j'étais parmi elles, donc c'était surtout une grande fierté pour mon père, il a jamais été aussi heureux. Voilà. Bref.
On a des révélations magnifiques. Exactement. Étienne Girard, vous allez nous dire que vous avez eu le maillot jaune un jour?
Non, quand même. Non, quand même pas. Non, mais je vais le voir dès que je peux, presque tous les ans. L'année dernière, j'étais à Carcassonne, dans l'Aude, pour le départ d'une étape. Puis je vais le voir quand il passe en Ile-de-France, dans les Yvelines, dans mon village, presque natal. Il est passé il y a quelques années à Saint-Arnaud en Yvelines. Évidemment, j'étais passé.
Oh, lui, le péage était gratuit ce jour-là.
Il n'était pas gratuit. Ah non, il n'était pas gratuit pour autant. Mais le tour est passé avec Froome, avec le maillot jaune. Maintenant, c'est absolument fascinant et passionnant. C'est la France qu'on aime. D'ailleurs, il y a quelque chose de frappant, c'est qu'aujourd'hui, tous les champions français viennent de territoires ruraux de cette France dont on parle trop peu. Alaphilippe, il vient de l'Allier. Pinot, il vient de Haute-Saône. Bardet, il vient de Haute-Loire. Donc, c'est vraiment cette France un peu rurale, cette France pas urbaine, qui est mise en valeur pendant tout un mois. C'est pour ça que pour Emmanuel Macron, c'était indispensable de venir cette année, notamment Hautes-Pyrénées. Là, il est dans les Pyrénées-Atlantiques aujourd'hui. Demain, il sera dans les Hautes-Pyrénées, dont viennent ses grands-parents. Donc pour lui, c'était l'occasion ou jamais de venir sur la route du Tour.
Et d'autant, Béatrice Houchard, vous allez nous le confirmer, que le président de la République et le Tour de France, c'est une histoire permanente. Ils sont tous passés par le Tour, ils vont tous se ressourcer sur le Tour de France.
Alors, ils sont pas tous passés par le Tour. Ah. En fait, la tradition de suivre une étape, elle est relativement récente. C'est Nicolas Sarkozy qui est le premier président à suivre une étape dans la voiture du directeur de la course, quand il est élu. Nicolas Sarkozy, c'est un vrai fanat de vélo. Il peut vous réciter tous les palmarès des années 60, 70 par cœur. C'est un vrai. Et donc, du coup, comme Sarkozy l'avait fait, François Hollande, qui aime bien le sport, et sans doute le vélo en particulier, surtout le foot, je crois, mais le vélo aussi. Donc, François Hollande l'a fait aussi. Et à mon avis, maintenant, les présidents, même s'il y en a un jour qui n'aime pas du tout le vélo, il sera obligé de venir faire son petit pèlerinage.
Alors ça veut dire qu'avant, ils n'y étaient pas,
François Mitterrand avait profité d'un déplacement dans l'Isère pour apparaître sur le bord de la route. Il avait fait quelques photos des échappées de la course. François Mitterrand, il aimait surtout les courses sur piste, en fait. Il allait aux 6 jours au Veldiv avant la guerre. Valéry Giscard d'Estaing, contrairement
à ce qu'on a entendu ici ou là. Un peu d'accordéon sur le Tour de France,
non. Valéry Giscard d'Estaing a suivi une étape alors qu'il n'était plus président. Il avait suivi l'étape du Puy-de-Dôme, mais c'était après. En revanche, Giscard, il a eu un rôle très important, car c'est lui qui donne le feu vert pour que le Tour arrive sur les Champs-Élysées. C'est-à-dire qu'il en avait été question auparavant, mais il y avait des problèmes de logistique, de sécurité. La préfecture de police n'était pas très emballée. Et notre confrère qui présentait le journal de 13h de TF1 à l'époque, Yves Mourouzi, était allé voir le président. Et comme le président avait trouvé que c'était une très bonne idée, et comme en France, quand le président décide que c'est une bonne idée, tout le monde suit derrière. Et donc, le Tour de France, grâce à Valéry Giscard d'Estaing, qui est aussi le seul, alors on verra si Emmanuel Macron lui succède ou pas le 28 juillet, le jour de l'arrivée du Tour, Valéry Giscard d'Estaing est le seul président à avoir remis le maillot jaune au vainqueur sur l'arrivée, en l'occurrence sur les Champs-Élysées. Jacques Chirac, qui s'est trouvé le malheureux, il était pour rien, lors de l'affaire Virenque et Festina et l'exclusion de Richard Virenque du Tour de France, l'étape était justement 98, en Corrèze, dans le canton de Bernard Chirac en 98, donc, il s'y intéressait pas spécialement.
Eh ben écoutez, et
Général de Gaulle, pour remonter, alors Général de Gaulle a eu l'immense honneur d'être la seule personnalité pour laquelle le Tour de France s'est arrêté dans le village de Colombey-les-Deux-Églises. Il était sur le bord de la route et apprenant qu'il était là, alors c'est 1960, donc on est encore, c'est étrange de dire ça maintenant, mais on est encore tout près de la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc au-delà du président de la République, les coureurs saluent l'homme du 18 juin 40.
Eh ben à l'époque, le Tour allait au président, maintenant le président va au Tour, changement d'époque. On reparlera au Tour de France après l'info, 20h40, presque 41, Solène Cressant.
Non, rien de répréhensible dans les dîners fastueux organisés par François de Rugy à l'Assemblée nationale. L'enquête du Palais Bourbon est publiée mardi, mais France Info révèle ce soir que ces dîners étaient bien des dîners professionnels, selon les conclusions du rapport. Au sujet du sèche-cheveux à 499 €, pas de trace de son existence. Un modèle de la même marque, haut de gamme, a été laissé dans l'appartement de fonction. Encore un signe de tension dans le détroit d'Ormuz. Les gardiens de la révolution iranien annoncent avoir confisqué un pétrolier britannique ce soir. Téhéran estime qu'il ne respectait pas le code maritime international. Une saisie quelques heures après la décision des autorités britanniques de Gibraltar de prolonger l'immobilisation d'un navire iranien. Une France toute rouge demain sur la route des vacances. Bison Futé prévoit beaucoup de monde dans le sens des départs. C'est orange si vous rentrez ce soir. C'est chargé surtout en vallée du Rhône. Et puis, le Sénégal rêve d'un premier titre. L'Algérie d'un deuxième, 29 ans après 1990. La finale de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est tout à l'heure au Caire. Coup d'envoi dans 20 minutes à 21h avec des dispositifs de sécurité renforcés à Paris, Nice, Marseille ou Lyon pour éviter tout débordement.
France Info.
20h-21h, les informés.
Frédéric Carbone.
Emmanuel Macron donc à Pau, ce soir on l'a entendu pour le centenaire du maillot jaune du Tour de France. Demain il suivra l'étape, le Tourmalet, il remettra le maillot au vainqueur à l'arrivée. Test de popularité du public, hein. Étienne Girard, cette visite, hein. C'est un vrai test pour Emmanuel Macron.
Forcément, surtout qu'une personnalité politique sifflée sur la route du Tour, c'est déjà arrivé. Moi je me rappelle, j'étais devant ma télé, c'était 2010, vous rappelez, Éric Woerth, il était accusé de conflit d'intérêts dans l'affaire Bettencourt. Il avait tenu à suivre le Tour de France depuis une voiture. Il avait été hué, c'était à Axe 3 Domaines, une étape de montagne. Il avait été hué par la foule. Donc la foule ne fait pas de cadeau aux politiques. Il n'y a pas de trêve, si vous voulez, sportive, sous prétexte qu'on serait sur la route du Tour. Donc le test, il est sérieux pour Emmanuel Macron et il risque des sifflets.
Parce que la France du Tour, Béatrice Houchard, je caricature en disant que c'est un peu la France des Gilets jaunes aussi.
Ah, faut se garder d'aller trop loin dans la comparaison, mais il y a des points communs. C'est vrai que ce qu'on a pu appeler la France des oubliés, la France de ces endroits où les gens vous disent on n'a plus de il y a plus de commerce, il faut faire 50 km pour voir un médecin, les transports ça marche pas bien, etc. C'est la France des gilets jaunes, et c'est aussi dans cette France que le Tour de France continue d'aller. Et Christian Prudhomme raconte, le directeur du Tour raconte d'ailleurs beaucoup que les gens lui disent merci de pas nous oublier parce que tout le monde nous oublie. Alors c'est vrai ou c'est pas vrai, c'est un peu excessif parfois, mais les fractures françaises, c'est pas moi qui vais vous le révéler, les fractures françaises, elles existent, elles sont graves et elles demeurent. Donc il y a un petit rapport effectivement. Alors non pas entre le maillot jaune et le gilet jaune, mais entre ces deux France.
Qui ne sont pas ces fractures dont vous parlez, qui ne sont pas forcément mises entre parenthèses parce qu'il y a une formidable épreuve cycliste qui se déroule. Sport et politique encore avec la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Algérie-Sénégal. Coup d'envoi dans un quart d'heure au Caire, en Égypte, où nous retrouvons Martin Roux. Bonsoir Martin.
Bonsoir.
J'imagine que le Caire retrouve une sorte d'ambiance pour la finale parce que depuis les huitièmes et l'élimination de l'Égypte, c'était quasiment une compétition morte, hein.
Ouais, l'ambiance est là. Eh bien, les festivités ont débuté ici puisque la cérémonie d'ouverture de cette finale s'est achevée il y a environ 40 minutes au stade, dans les gradins. Les Algériens sont présents en masse, entre 10 000 et 13 000 supporters pour 4 000 supporters sénégalais. Certains sont là depuis le début de la compétition et mettent un peu l'ambiance dans le centre-ville de la capitale. D'autres sont arrivés sur le tard. J'en ai ainsi rencontré qui ont tout plaqué pour venir assister à cette finale au stade international du Caire. Évidemment, des espoirs immenses des deux côtés. Pour l'Algérie, peut-être un deuxième sacre 29 ans après sa victoire à domicile en 1990. Et pour les Lions sénégalais, eh bien, peut-être une première victoire en Coupe d'Afrique des Nations. Les deux équipes se sont déjà rencontrées lors de cette CAN en phase de poule et l'Algérie l'avait emportée. Un supporter sénégalais me disait donc que cette fois-ci, la galanterie voudrait que les Fennec algériens laissent les Lions sénégalais l'emporter, et ça, nous le saurons rapidement. Quoi qu'il en soit, les Égyptiens ici se passionnent aussi pour cette finale. Dans le centre du Caire, les terrasses de café sont remplies devant les écrans géants installés pour l'occasion, et on attend de pied ferme le coup d'envoi dans un peu moins de 20 minutes.
Oui, effectivement, dans un peu moins de 20 minutes, et nous verrons si cette galanterie s'applique à une finale de compétition internationale de football. Ça sera un peu la première fois, Martin Roux, mais pourquoi pas les choses évolue. Cette finale de Coupe d'Afrique des Nations, en tout cas, c'est aussi, je le disais, une passion française. Et un chercheur enseignant à Sciences Po, Karim Amelal, explique par exemple que dans la liesse et les débordements qu'il y a eu dans les grandes villes de France ces derniers jours, il y a à la fois de la fierté par rapport à la révolution algérienne en cours depuis des mois et du ressentiment par rapport à la situation de ces Algériens ou franco-algériens en France. C'est passionnel et c'est complexe tout ça, Virginie Pradel.
Oui, hein, je suis pas à la place des gens, hein, mais oui, je pense qu'il y a toujours eu des débordements. C'est quand même intrinsèquement lié au football, hein, le fait de casser un peu tout sur son passage quand on est content ou mécontent. Moi, je veux pas du tout dire qu'il y a pas de ressentiment, hein, derrière tout ça, mais enfin, pour moi, il y a toujours eu énormément d'excès à côté de football.
Vous y voyez pas quelque chose de l'ordre de malaise français, entre guillemets, comme certains veulent mettre dessus?
Je suis assez partagée. Il y en a qui vont dire que brandir le drapeau, c'est un acte politique. Moi, je suis un peu partagée. Mais pourtant, enfin, je suis assez dubitatif sur la question. Mais
on n'est pas obligé d'avoir une opinion tranchée.
Voilà. Non, j'ai pas une opinion tranchée, mais par contre, voilà, je pense qu'il faut un vrai dispositif pour éviter tous les débordements qui ont été constatés au cours des dernières semaines, que ce soit du ressentiment ou autre chose. Mmh. C'est un peu plus complexe. Et là, je dois avouer que mon point de vue est assez partagé.
Le dispositif de sécurité, Étienne Gérard, je crois que c'est 2500. Hein, c'est ça, force de l'ordre aujourd'hui, comme le 14 juillet pour la demi-finale. Il y a un enjeu pour Christophe Castaner ce soir?
Évidemment, Christophe, il ne peut pas. Ce serait pour lui un échec gigantesque s'il y avait des débordements tels que la police apparaît dépassée et incapable de juguler une foule en liesse ou une foule qui explose. Donc il n'a pas le droit à l'erreur ce soir, surtout que c'est pas le premier soir où on attend des débordements, c'est le troisième soir. Donc si on a pu comprendre que le premier soir, le soir du quart de finale, les forces de police un peu partout sur le territoire avaient été prises au dépourvu, l'argument ne vaudra pas ce soir.
Mais débordement, c'est évident, il y a eu des vitrines cassées, la maire du 8e arrondissement de Paris, des Champs-Élysées, demande des précautions maximales. En même temps, j'entendais la semaine dernière le maire du 17e arrondissement voisin dire « Moi, j'ai avant tout vu de la liesse, de la joie ». Béatrice Souchard, ça aussi, c'est extrêmement compliqué. On est dans quelque chose où il y a un événement avec effectivement beaucoup de liesse, beaucoup de joie, de la casse. Tout ça est très complexe à gérer en termes de maintien de l'ordre.
Oui, il disait pas seulement ça. D'ailleurs, le maire du 17e, il disait aussi, si on interdit le 8e, ils vont venir dans mon arrondissement.
Oui, donc, ne fermons pas les Champs-Élysées.
Ne fermons pas les Champs-Élysées. Hein. Donc, écoutez, je sais pas si Christophe Castaner n'a pas le droit à l'erreur. Moi, j'ai l'impression que ça fait quand même beaucoup de samedis. Là, en l'occurrence, on n'est pas samedi, on est vendredi. Mais il y a eu beaucoup de samedis où il n'avait pas le droit à l'erreur et où il y a eu des gros problèmes. Il est toujours là.
Vous en déduisez quoi?
Je ne sais pas qu'il est. C'est sûrement un très bon ministre de l'Intérieur.
Ou qu'il a droit à l'erreur, ou qu'il a droit à beaucoup d'erreurs.
Visiblement, il a droit à l'erreur. Après, je dis pas que c'est facile. Hein. Attention, hein, c'est pas du tout. Je suis pas préfet de police ni ministre de l'Intérieur. Mais enfin, il y a quand même beaucoup. Sans parler de ce qui s'est passé à Nantes, le soir de la fête de la musique avec ce jeune homme qu'on a toujours pas retrouvé. Enfin, quand même, ça fait quand même des mois et des mois qu'il y a des gros incidents.
Eh ben, on verra ce qui se passe ce soir à Paris. Un tout dernier point, Étienne Gérard, il y a des villes qui interdisent les rassemblements ce soir, Nice, Cannes, on va trop loin?
Oui, il me semble que dans la mesure du possible, il serait normal que des gens qui ont envie de saluer une victoire d'une équipe nationale qu'ils soutiennent puissent le faire. Surtout que faut le rappeler quand même, ceux qui cassent, ceux qui créent des débordements restent une infime minorité par rapport à toute cette foule qui célèbre. Cela dit, si les pouvoirs publics font l'analyse qu'ils sont incapables de juguler les délits ou les débordements, alors il n'y avait peut-être pas le choix.
Eh bien écoutez, on verra bien ce qui se passe ce soir, coup d'envoi dans une dizaine de minutes au Caire. On reprend la conversation après l'info, les grands titres, 20h50, et c'est Solène Cresson.
Le ministre de l'Intérieur appelle au respect des valeurs du sport. Dans quelques minutes, coup d'envoi de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre l'Algérie et le Sénégal. Les deux pays rêvent du titre, mais pour Christophe Castaner, le droit doit gagner. Marseille, Paris ou encore Montbéliard ont pris des mesures de sécurité exceptionnelles par crainte de débordement. Ce sont eux qui ont déclenché l'affaire de Rugy. Les dîners polémiques de François de Rugy quand il présidait l'Assemblée nationale sont bien des dîners professionnels. Résultat de l'enquête confiée à l'Assemblée et que France Info a pu se procurer avant leur publication prévue mardi. La deuxième canicule en moins d'un mois va toucher la France dès lundi avec des pics attendus à 40 degrés à l'ombre, une canicule moins longue que la précédente mais qui ne va rien arranger à la progression de la sécheresse. 71 départements sont concernés par des restrictions d'eau, 24 sont même en crise. Donald Trump et Emmanuel Macron ont parlé du dossier iranien tout à l'heure par téléphone. Ensemble, ils ont évoqué les efforts en cours pour s'assurer que l'Iran n'obtienne pas l'arme nucléaire. Il y a de vives tensions en ce moment entre Téhéran et Washington dans le détroit d'Ormuz en cause des drones abattus. Il trouve ça incroyable. Julien Alaphilippe, l'homme en jaune, heureux ce soir. Notre Français gagne le contre-la-montre individuel à Pau, 13e étape du Tour de France, et son maillot jaune reste bien accroché sur ses épaules le jour où l'on célèbre en plus les 100 ans de la mythique tunique.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Frédéric Carbone.
Allez, on termine avec ce tout petit pas pour l'homme et grand pas pour l'humanité qui aura tout juste 50 ans demain, un demi-siècle que l'homme a marché sur la Lune, l'aventure d'Apollo 11, l'occasion pour tous les pays, on l'entend, les États-Unis, les pays européens, la Chine, bien sûr aussi la Russie, de relancer l'aventure spatiale, de dire voilà, on veut aller plus loin. Est-ce bien raisonnable, Virginie Pradel?
Je ne sais pas si c'est raisonnable, mais en tout cas, c'est ce qui a été annoncé par Donald Trump. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, c'est plus l'URSS contre les États-Unis, mais il y a la Chine hein, qui a quand même envoyé, qui a réussi un exploit hein, en envoyant
sur ce fameux,
voilà, sur la face cachée. Donc, je pense qu'il y a quand même un jeu autour de ça, et en tout cas, il y a des enjeux géostratégiques. Très important qui se cache derrière la conquête spatiale. Le fait de retourner sur la Lune serait peut-être un premier pas pour aller sur Mars, hein, parce qu'on sait que c'est déjà prévu pour coloniser la Lune aussi. Enfin, je sais pas.
Ça veut dire qu'aujourd'hui
très
on
très excitant
pas...
de voir ce qui va se passer.
Voilà. Donc vous dites c'est très excitant. Ça veut dire qu'un chef d'État d'une grande puissance aujourd'hui, Étienne Gérard, n'a pas le droit de dire non, je n'ai pas d'objectif spatiaux encore plus élevé. Ça doit faire partie du paquet.
Il a le droit, mais ce sera un symbole étonnant. Bien sûr que tout le monde s'attend à ce qu'une grande nation continue à chercher, continue à essayer d'aller plus loin dans la conquête spatiale, à trouver de nouvelles découvertes, de nouveaux territoires peut-être qu'on ne connaît pas encore. Évidemment, parce que ça fait rêver, parce que ça fascine et parce que c'est le sens de l'histoire. Mais je remarque quand même que depuis le petit pas pour l'homme et le grand pas pour l'humanité, la conquête spatiale a connu un temps d'arrêt.
A connu des échecs dramatiques, a connu des navettes qui ont explosé, mais a connu aussi d'autres avancées. Ça reste ça, Béatrice Houchard, la Lune, l'espace, un terrain de lutte entre les grandes puissances et celles qui veulent le devenir?
Oh, il y a sans doute un peu de ça, je pense. Surtout, alors moi, à titre personnel, j'ai beaucoup de tendresse pour cette période parce qu'ils avaient eu la bonne idée de marcher sur la Lune le jour de mon anniversaire.
C'est pas vrai.
Je ne remercierai jamais. Je vous dirai pas quel âge j'avais parce que
non,
ce serait très indiscret.
Je vous le demanderai
donc
pas.
Donc, mon souvenir, c'est que ça faisait effectivement rêver. C'était quand même, je crois qu'on peut pas imaginer aujourd'hui ce que ça pouvait être de regarder dans le ciel et d'avoir la tête dans les étoiles d'une certaine manière. Et je me dis que pour les Européens, parce que il y a pas seulement le fait d'aller sur la Lune ou d'aller sur Mars. Je pense que ça a développé des tas de chose fait avancer la recherche scientifique, la recherche médicale. Enfin, c'est pas seulement Tintin, Objectif Lune et le capitaine Haddock et les Dupont. Hein. Mmh. C'est quand même plus sérieux, même si on adore tous Tintin évidemment ou Jules Verne. Mais ça pourrait être un beau sujet de, alors pas seulement de rêve, mais de un bel objectif pour l'Union européenne, pour essayer de rassembler les pays européens qui ont tant besoin d'un objectif commun. C'est peut-être à ce niveau-là, parce que bon, c'est pas la France toute seule dans son coin qui le fera. Mais c'est peut-être un bel objectif commun pour les Européens.
Ben, Virginie Pradel, un beau rêve européen. Il y a déjà hein, des coopérations européennes sur les questions spatiales, évidemment. Hein. Il y a des agences spatiales européennes.
Oui, qui coûteraient peut-être un peu cher. Quoique, j'ai vu que la NASA comptait, enfin Donald Trump comptait peut-être s'appuyer sur le privé pour réduire les coûts, hein, notamment sur... alors, je ne me rappelle plus le nom de l'entreprise lancée par SpaceX.
SpaceX, Elon Musk.
Et Blue Origin pour réduire les coûts. Et pour populariser, entre guillemets, la conquête spatiale, en rendant ça accessible à peut-être pas des gens comme nous, mais à certaines personnes.
Et Étienne Gérard, vous êtes du côté du rêve, mais rêve réel, hein, de Béatrice Houchard ou de Je regarde les comptes de Virginie Pradel? Non, la tête dans les étoiles ou le regard sur la calculette?
Entre les deux. Et ce que j'observe, c'est que la conquête spatiale et ces sujets-là prennent moins de place aujourd'hui qu'avant dans les débats publics. Un exemple, en 1981, le ministère de la Recherche est un des premiers ministères. Mmh. le ministre Jean-Pierre Chevènement est ministre d'État. On fait de lui un des principaux ministres. Aujourd'hui, le ministre de la Recherche, qui s'occupe de ces questions, passe dans l'anonymat le plus total.
J'imagine que ces recherches et enseignement supérieur.
Oui, oui.
Madame Vidal, si Frédéric Vidal, si je me
Frédéric
trompe,
Vidal
mais
qui est
plus
la...
Parcoursup que navette spatiale. Oui,
alors, il y a aussi un aspect géostratégique qui est géré par la ministre de la Défense, Florence Parly. Mais ces sujets-là ne font plus débat dans l'opinion publique. On n'ouvrirait pas une émission d'information générale, grand public, par les sujets spatiaux. Aujourd'hui, eh ben, on est sur la sécurité, on est sur l'identité, sur la lutte contre le terrorisme. Voilà, il y a quand même un aspect, une angoisse qui parcourt la société depuis quelques années et qui s'exprime par le fait qu'on parle beaucoup moins de ces sujets de futur.
Alors demain sur France Info, je vous rassure, pour le jour anniversaire du 50e anniversaire de l'homme sur la Lune, on va beaucoup parler, y compris à la une, de cette histoire-là. Je vous piège un peu, je ne vous ai pas prévenu, mais j'aime bien terminer cette semaine de vacances, les informer par des petits conseils pour les auditeurs qui ont du temps de lire, aller au cinéma, voir une expo. Un conseil, chacun, vous réfléchissez, vous avez 10 secondes, un livre à partager, une expo, un film, une idée qui est prêt. Vous êtes
bah non, mais je vais, bah oui.
Étienne Gérard, allez-y.
Je vais conseiller aux auditeurs de faire ce que je vais faire demain après-midi, c'est-à-dire me poser devant le service public et regarder l'étape du Tour de France avec Julien Alaphilippe qui est quand même en capacité d'avoir toujours le maillot jaune à une semaine de l'arrivée du Tour de France. C'est pas arrivé depuis 30 ans.
Oui, une semaine un peu plus. Oui, mais vous avez raison.
À mi-jour de l'arrivée du Tour de France.
Il y a les Alpes et les Pyrénées.
Quel exploit, déjà.
Alors, vous pouvez aussi l'écouter sur la radio de service public, sur France Info. Virginie Pradel, une autre idée.
Et moi, je conseillerais un livre que j'ai lu cette semaine, que je trouve magnifique, hein, dont on a beaucoup parlé, mais du coup, j'en parle à nouveau. C'est le livre de Claire Marin, Rupture, qui est vraiment sublime.
Quel éditeur?
Les éditions de l'Observatoire et qui est pour moi un petit bijou. On en a beaucoup parlé, mais vraiment, je pense que c'est le livre à lire cet été. Ça se lit très bien, c'est très profond et c'est très réflexif, c'est très bien.
Claire Marin, Rupture. Béatrice Houchard, un conseil, 15 secondes.
Eh ben, écoutez, comme on est dans les centenaires, il y a beaucoup de centenaires, hein, 1919-2019, donc il y a aussi le centenaire du prix Goncourt de Marcel Proust pour À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Il y a un super livre, je vais pas vous lire de dire tout Proust, hein, on n'a pas le temps ce soir.
Non, mais l'été, c'est pas mal.
Un livre de Thierry Laget, c'est chez Gallimard, un livre de Thierry Laget qui s'appelle Proust, prix Goncourt, une émeute littéraire, c'est un bouquin formidable.
Eh ben, formidable. Merci infiniment, Béatrice Houchard, je me permets, moi, de conseiller votre livre. Ça a déjà été fait hier par des invités, des informés. Tour de France, France du Tour, chez Kalman Lévy. Merci à tous les trois, Béatrice Houchard. À Pau, Virginie Pradel de l'Institut Vauban et Étienne Girard de Marianne. Merci beaucoup.
Merci à vous.